de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, avec Victor Hull à la réalisation aujourd'hui, pour nous demander comment démêler le vrai du faux, l'info de l'intox prétendument scientifique et particulièrement pléthorique en ces temps de pandémie et de cacophonie. Face à tous ces discours instantanés, contradictoires et toujours péremptoires de pseudo-experts qui savent tout sur tout, alors que parallèlement on assiste quasiment en direct au tâtonnement inhérent à la recherche scientifique, comment s'y retrouver ? Comment retrouver confiance et esprit critique? Pourquoi tous les avis ne se valent pas? Pourquoi c'est toujours collectivement et avec controverse que se construisent les vrais savoirs scientifiques? Car tout n'est pas aussi relatif que l'on fait semblant de le croire. Mais comment retrouver le goût du vrai, pour reprendre le titre du percutant et salutaire essai de notre invité, le physicien et philosophe Étienne Klein, qui nous remet les pendules à l'heure autour de la question « La science dit-elle le vrai ?» Bienvenue.
Ben oui, la science est relative. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'elle est absolue parce qu'on arrive à démontrer. Quand on démontre que la Terre est ronde partout. Donc en ce sens-là, elle a un côté d'absolu. Dans le sens, c'est une vérité absolue. Elle n'est pas relative à la culture de où je vis, etc. La Terre, elle est ronde partout. Mais la construction de la science, elle se fait par des allers-retours. Ça se construit par opposition, par réflexion, par contradiction... Donc la vérité, c'est une convergence d'idées, c'est pas quelque chose comme ça, quoi. Ça se construit petit à petit, en étayant, avec des preuves. C'est ça qui est fascinant. Dans la science, c'est une exploration constante, quoi. Beaucoup de médias aiment trop les caricatures, quoi. Donc ils vont avoir tendance, plutôt que prendre quelqu'un qui explique ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ils préfèrent quelqu'un de très péremptoire. Raoul, c'est du péremptoire sans, quoi. Et je pense qu'il y a quand même un petit travail d'éducation à faire autour de ça. Comment marche la science, quoi ?
Bonjour Étienne Klein.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour nous aider à comprendre comment marche la science, comme vient de le dire la généticienne Evelyne Heyer, car il y a urgence. En ces temps de pandémie et de cacophonie, j'imagine que c'est pour cela que le physicien et philosophe des sciences que vous êtes, directeur de recherche au CEA, mais aussi producteur de l'émission La Conversation Scientifique sur France Culture, et auteur de nombreux ouvrages de référence et à succès sur le temps, les infinis ou la gravité, a décidé donc de reprendre la plume pour rédiger cet essai très court, très percutant, « Le goût du vrai », publié dans la mini-collection « Tract » chez Gallimard. Il y a urgence, il y a besoin, Étienne Klein, aujourd'hui.
C'est l'impression que j'ai eue, je l'ai écrit en quelques jours, c'était, comme vous l'avez rappelé, c'est pas vraiment un livre, c'est ce qu'on appelle un tract, hein. Il fait 58 pages, je crois. Et je l'ai écrit après avoir constaté qu'en effet, on vivait une période très, très confuse. J'imagine que quelqu'un qui ne connaît pas la science et qui entend les différents scientifiques qui s'expriment ici ou là a l'impression d'une très très grande confusion, de contradiction, de controverse avec l'idée que la science n'est jamais d'accord avec elle-même, alors que il me semble qu'on doit faire la distinction entre la science et la recherche.
Ah, voilà. C'est là qu'il faudrait faire la distinction.
Oui, je pense, parce que on parle de la science comme si la recherche en faisait partie. Et il est vrai que la recherche consiste à poser des questions scientifiques, mais il y a quand même en science un corpus de connaissances qui sont acquises et qu'on n'a pas lieu de remettre en cause tous les quatre matins, sauf si un jour on découvre quelque chose qui oblige à le faire. On a parlé de la forme de la Terre est ronde, on sait qu'elle n'est pas plate, et on vit avec cette idée sans éprouver le besoin de la soumettre à des examens critiques périodiquement.
Et donc, vérités scientifiques.
On pourrait dire que la question de la forme de la Terre est une question réglée. Mm-hmm. On dit qu'elle est ronde, ça ne veut pas dire que ce soit une sphère, elle est aplatie au pôle, comme vous savez. Et donc, il y a d'autres questions comme celle-là qui sont réglées par l'histoire, par les controverses, par des expériences, par des disputes qui finissent par permettre de faire parler un bout du réel. Par exemple, on sait que l'atome existe. On ne sait pas tout sur l'atome, mais on sait que l'atome existe. On sait que l'univers observable est en expansion. Ça, c'est ce que j'appelle la science. Et puis la recherche, ce sont des questions qu'on se pose. On ne connaît pas les réponses, et c'est bien pour cela qu'on fait de la recherche. On met en place des protocoles, des expériences, des méthodologies qui dépendent des disciplines d'ailleurs. Les physiciens ne travaillent pas comme les biologistes, qui eux-mêmes ne travaillent pas comme les sociologues. On a donc des sciences et non pas une science. Et la recherche, justement, elle a pour force motrice le fait qu'on ne sait pas, l'incertitude, le doute. Mais si on confond la science et la recherche, alors on produit un discours qui est quasiment schizophrène, puisqu'on dit d'un côté la science permet d'accéder à la vérité, et en même temps elle est dans un doute systématique.
Or il faut différencier les deux. La recherche, le doute c'est du côté de la recherche, la relativité c'est du côté de la recherche, et il y a des vérités établies.
Je ne prendrai
en
pas
science.
Le mot relativité sur lequel on pourra revenir, mais
oui,
en gros un chercheur c'est quelqu'un qui sait ce qu'on sait et qui sait ce qu'on ne sait pas.
Ah.
Voilà. Et donc l'ignorance.
Et qui peut donc dire je ne sais pas.
Voilà. Et qui doit dire je ne sais pas.
Qui doit dire je ne sais pas.
Mais vous voyez que médiatiquement on a un problème, parce que si vous me posez une question et je passe mon temps à vous dire je ne sais pas, ben je ne serai pas réinvité. Et donc les gens qui sont dans la prudence.
Ici oui, parce que nous on aime les questions.
Dans l'humilité,
ailleurs, peut-être
ils sont médiatiquement débordés par des gens qui donnent l'impression de savoir et qui vont au-delà de leurs compétences.
Et c'est ce qu'on a vu on l'a vu très fort là, dans cet épisode pandémique que l'on vit toujours sur les plateaux de télé. On a vu des experts de tout, savoir tout sur tout.
Et parce qu'on a envie de savoir, on n'aime pas l'incertitude. Et donc celui qui parle avec assurance, et on peut prendre l'exemple de Donald Trump, qui parle aux Américains en donnant l'impression qu'il sait mieux que les chercheurs comment va se comporter le virus. De même qu'il sait mieux que les climatologues comment va se comporter le climat. Il explique que ça va refroidir. Enfin, il a une espèce d'instinct qu'il met en avant, qui lui paraît être plus efficace pour connaître la vérité que le travail des chercheurs, qui est inutile à ses yeux et chronophage.
Alors vous citez Étienne Klein dans ce petit essai, dans ce tract, Le goût du vrai, dont nous avons, chers amis, auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Vous citez Nietzsche, hein, que cite aussi un de nos auditeurs à Douala au Cameroun, « L'intérêt pris à la vérité cessera à mesure qu'elle garantira moins de plaisir. » Mais vous citez aussi Coluche, « L'intelligence est la chose la mieux répartie chez l'homme, parce que quoi qu'il en soit pourvu, l'homme a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il juge. » On est
voilà,
en plein
donc,
dedans. Hein.
Coluche, en effet, dans ce sketch qui date, si ma mémoire est bonne, de 1983, il a fait un pastiche de Descartes. Et il a illustré ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Dunning-Kruger, du nom de deux psychologues américains.
Expliquez-nous ce que c'est.
En gros, ce que dit Coluche, c'est que pour se rendre compte qu'on a dit une bêtise, bah, il faut être intelligent. Ça permet donc de comprendre que ce qui a été dit ne correspond pas aux critères qu'on attribue à l'intelligence. Et l'effet Dunning-Kruger, c'est un effet qui a été donc étudié par deux psychologues, Dunning et Kruger, qui avaient lu dans un journal un fait divers qui les avait beaucoup troublés. Ils avaient lu qu'un jeune homme avait cru comprendre, en lisant un certain journal, que lorsqu'on s'enduit de visage avec du jus de citron, on devient invisible pour les caméras. Il avait donc eu une idée qu'il considérait comme géniale. « Je vais m'enduire le visage de jus de citron et je vais faire un hold-up. » Ça n'a pas marché. Et Dunning-Kruger se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut être aussi incompétent? Et en étudiant beaucoup de choses, notamment dans la vie des entreprises, ils ont pu mesurer que l'assurance qu'on a à propos de telle ou telle question qu'on découvre est d'autant plus grande qu'on est incompétent. Autrement dit, pour se rendre compte de son incompétence, il faut devenir compétent. Et c'est un peu ce qui s'est passé pendant la pandémie, puisque, souvenez-vous, dans les premières semaines, on lisait des tweets ou des messages de personnalités diverses, notamment politiques, qui disaient « je ne suis pas médecin, mais je ». Donc je suis incompétent, je le fais savoir, je suis conscient de mon incompétence, mais je vais quand même vous expliquer ce qu'il faut penser ou faire à propos de tel ou tel traitement ou telle mesure proposée par nos dirigeants. Et puis, à mesure que le temps a passé, on a pris conscience que cette affaire est diablement compliquée, et sauf cas exceptionnel, on a moins d'assurance à parler de ce virus, parce que l'affaire est complexe et les jugements à l'emporte-pièce, même s'ils sont séduisants parce qu'ils donnent l'impression que le problème est circonscrit, sont plutôt à proscrire.
On a parlé de la relativité, donc la vérité en science est-elle relative? C'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Étienne Klein, vous allez nous répondre, juste après avoir écouté l'éclairage, lui aussi relatif, du géohistorien de nos mondialisations, Christian Grataloup, qui était récemment notre invité.
La question que j'aurais envie de poser, ce serait, cher Étienne Klein, ravi de vous poser une question, très fier, comment faire comprendre que la vérité scientifique est relative? Pour moi, la question est celle-là, c'est-à-dire, peut-être c'est très popérien, mais de dire c'est vrai maintenant, et c'est vrai justement parce que je sais que demain ce sera faux, ou tout du moins insuffisant, limité, une vérité relative. Ça, c'est le problème des informations scientifiques sur la pandémie, ils ont été particulièrement clairs là-dedans, où on finit par dire, les experts se contredisent, ils disent n'importe quoi, il n'y a pas de vérité scientifique. Donc, entre les deux dangers qui seraient de croire de manière très scientiste qu'il y a une vérité scientifique avec un grand V, et puis au dire il n'y a pas de vérité scientifique du tout, on raconte n'importe quoi, le bon chemin, il est autre, et comment bien le faire comprendre ? Ah oui, c'est notre problème à tous les scientifiques, sciences humaines comme sciences de la nature.
Que pouvez-vous, que voulez-vous répondre, Étienne Klein, au géohistorien Christian Rattelou ?
C'est une très bonne question et je suis embarrassé pour y répondre. Mais je ne dirais pas que la vérité scientifique est relative. Par exemple, il me semble qu'il y a des résultats qui sont acquis et qui ne sont pas susceptibles d'être mis en cause plus tard, en tout cas pas par des méthodes scientifiques. J'ai donné l'exemple « la Terre est ronde ». On pourra changer notre représentation de la Terre, découvrir qu'il y a au centre de la Terre, des matériaux qu'on n'avait pas imaginés, etc. Mais la forme...
Elle restera.
C'est réglé.
Là,
ouais. C'est réglé. Ce qui ne veut pas dire que.
Donc, ça c'est pas relatif.
Ceux qui vont nous suivre, peut-être, considéreront qu'elle est plate. N'empêche qu'elle est ronde. Si vous voulez. Et c'est un exemple que donnait David Hume.
Expliquez-nous.
Alors, David Hume, dans un texte de 1792, disait la Terre tourne autour du Soleil. Et même si le peuple décidait qu'il en est autrement, c'est-à-dire que la Terre est au centre de l'univers, ça n'empêcherait pas la Terre de continuer à tourner autour du Soleil.
Donc là, c'est vraiment une vérité qui n'est pas du tout relative.
La vérité scientifique n'est pas relative à des opinions, à des cultures. Elle ne s'obtient pas par un référendum. Mais là où David Hume se trompe un peu, c'est que quand il dit « la Terre tourne autour du Soleil », il donne l'impression de dire une vérité absolue. Or, comme vous le savez, au début du XXe siècle, il y a eu une révolution dans la façon de comprendre la gravitation, qu'on appelle la théorie de la relativité générale d'Einstein. Et cette théorie nous dit que tous les référentiels sont équivalents. Et donc, quand vous dites « la Terre tourne autour du Soleil », vous laissez entendre que le Soleil, c'est le centre, qu'il est un référentiel particulier autour duquel la Terre tourne. Et c'est un énoncé qui, du coup, ne rend pas justice à notre nouvelle façon de comprendre la gravitation. Donc, c'est toujours une vérité, mais si on voulait vraiment honorer la vérité, on changerait la façon de la dire pour tenir compte de la nouvelle façon de comprendre la gravitation. Et après, on peut évidemment discuter pendant des heures des critères de vérité. Qu'est-ce qu'on appelle la vérité ? Notre invité l'a parlé de Karl Popper. Mm-hmm. Il disait qu'on ne peut jamais prouver puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une expérience qui va contredire la théorie. Oui, mais d'abord, chercher les critères du vrai, comme disait Emmanuel Kant, le philosophe, c'est comme traire un bouc. C'est-à-dire, c'est vain. Ce qui n'empêche pas la vérité d'exister. Parce que si vous dites « il n'y a pas de vérité », alors la phrase qui dit « il n'y a pas de vérité » n'est pas vraie. On tombe là sur une sorte de paradoxe.
Donc, on est encore dans des paradoxes, qui veut dire qu'il faut chercher la vérité, mais qu'en même temps, il n'y a pas une vérité.
Moi, je dirais, si vous voulez, que ce qu'on appelle une vérité en science, c'est la bonne réponse à une question bien posée. C'est la bonne réponse à une question bien posée. Et cette réponse a été acquise par, non pas par l'intuition, non pas par le fait qu'on a une idéologie complexe sur le réel, mais par des expériences, des protocoles, dont les résultats sont discutés avec des personnes qui s'intéressent à cette question. Et la controverse, c'est donc une opération collective et non pas individuelle. Hein. Faire de la science, c'est pas balancer ses résultats sur Twitter sans les avoir confrontés aux remarques, aux commentaires et parfois aux critiques des collègues.
Oui, c'est collectif, et c'est par la controverse
que
ça passe.
Parce que Karl Popper, qu'on vient de citer, a dit aussi « la science, c'est, la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir ». Donc il y a de la bagarre, jusqu'à ce qu'on arrive à faire parler un bout du réel qui fait cesser la bagarre. Et là, ça devient de la science, avant c'était de la recherche. Donc si vous voulez, la science, c'est ce que produit la recherche grâce à des résultats qui sont éprouvés, stabilisés, au moins pour un certain temps. Et moi j'ai la conviction qu'il y a des résultats qui ont une solidité tellement forte qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont un rapport avec la réalité. Prenez la physique.
Votre domaine.
En physique, je suis un peu provocateur lorsque je dis ça, mais il n'y a pas eu de révolution depuis des dizaines d'années.
Mais il y en aura peut-être une à venir.
Mais peut-être, mais la physique d'aujourd'hui s'appuie sur deux socles théoriques qui sont la théorie d'Einstein que je viens de citer pour la gravitation, et puis la physique quantique pour les autres interactions fondamentales, électromagnétisme et nucléaire. Et à l'époque où on a mis sur pied ces théories, on avait très peu de données. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de données par les satellites, les accélérateurs de particules, les télescopes, et c'est toujours les mêmes théories. Et donc, le fait que des théories qui sont nées à une époque où on avait peu de données par rapport à aujourd'hui aient résisté à cette avalanche de tests qu'on a produit depuis, est le signe que leur solidité et l'indication qu'elles ont, elles sont capables de toucher quelque chose qui a à voir avec le réel. Oui, je suis prudent.
Quelque chose qui a à voir avec le réel, ouais. Ça serait peut-être la définition de la vérité en science. En même temps, je vous écoute, je vous entends, je vous comprends, Étienne Klein, mais le temps de cette explication-là, de ces paradoxes, de ce cheminement, de cette controverse, il prend du temps, justement, qui n'est absolument pas ni le temps des médias, évidemment, ni notre temps à nous aujourd'hui, accéléré, confus, qui voulons des réponses tout de suite.
Exactement, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, je pense que la diffusion, non pas des résultats de la science, qui peut, et elle se fait très rapidement, on peut annoncer au journal de 20h qu'on vient de détecter les ondes gravitationnelles ou le boson de Higgs, personne n'y comprend rien, mais on a l'information. Mais si on voulait comprendre en quoi consistent ces ondes gravitationnelles, qui les a pensées, comment on les a détectées, qu'est-ce qu'elles nous disent sur l'espace-temps, etc., ça prendrait des heures, que nous n'avons pas. Et donc, la diffusion des résultats de la science et de la démarche scientifique est victime de ce que j'appellerais une crise de la patience. C'est-à-dire, nous n'avons pas le temps d'expliquer comment ces connaissances se sont construites au cours de l'histoire des idées. Et plutôt que d'argumenter au sein de ce qu'on pourrait appeler des débats, on préfère prendre des personnes dont les positions sont tranchées,
et
contradictoires.
Simple, hein, ça va plus vite quand
on préfère
c'est
un clash à un débat, si vous voulez. Alors, vous savez, l'origine du mot débat, c'est un vieux mot qui date, si je ne me trompe pas, du 12e siècle. Et débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre.
Ah.
Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui on préfère se battre symboliquement sur des plateaux plutôt
avec
que
des
de...
mots plutôt que véritablement
voilà, plutôt que de débattre.
Débattre. On entend bien l'esprit de résistance hein, qu'il faut avoir finalement à développer peut-être autant que l'esprit critique autour de la question la science dit-elle le vrai? Je vous propose Étienne Klein un nouvel éclairage, c'est celui du prix Nobel de physique Serge Haroche qui était récemment notre invité. On l'écoute et vous réagirez ensuite.
Oui, la notion de vérité en science est une notion assez difficile à définir parce que c'est quelque chose de complexe. La vérité, elle résulte de la démarche scientifique elle-même. En fait, la démarche scientifique consiste à partir de l'observation des faits, également de l'expérimentation, qui est l'observation de faits qui sont reproduits en laboratoire avec des conditions très bien définies. Et à partir de cette observation et de cette expérimentation, on construit des modèles théoriques. Je parle en particulier de la physique, on met en relation les observations et les résultats de ces observations dans des formules, dans des équations, dans des lois, dont le mérite consiste à rapprocher des phénomènes apparemment disparates sous une explication commune. Et cette démarche est une démarche dans laquelle on passe sans arrêt de l'observation au modèle et on revient ensuite à partir. Les modèles prévoient de nouveaux phénomènes, on essaye de les vérifier. Si on les vérifie, ça conforte la théorie. Si on ne les vérifie pas, ça veut dire qu'il faut modifier ou abandonner la théorie. Donc cette vérité est une vérité relative au sens qu'elle est confrontée sans arrêt à la nature. Mais ce n'est pas un relativisme culturel, ce n'est pas que tout se vaut, c'est complètement différent. Et donc c'est là que se trouve le problème de la vérité en science, c'est le fait que la vérité dans la science repose sur un doute rationnel qui est essentiel. Il faut remettre en question en permanence ce qu'on observe pour modifier, pour affiner la théorie. Et l'histoire de la lumière a prouvé ça au cours des siècles. Mais ce n'est pas le doute irrationnel et le doute destructeur des tenants du complotisme et des théories du complot et des fake news, etc. Ces gens-là ont repris la notion de doute en la pervertissant complètement et en faisant un doute qui remettrait au même niveau une théorie, une opinion, etc. Et donc c'est ça qui conduit à la destruction même de l'idée de la science, avec la propagation des fausses nouvelles, le négationnisme du réchauffement climatique, etc. etc. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces théories perverses et contre le développement de ces manifestations. Ce que je trouve paradoxal, c'est que, alors que la science n'a jamais eu autant de succès pour nous faire comprendre le monde et pour nous donner des instruments qui augmente notre capacité d'agir et de réagir dans le monde. Je pense à tous les moyens technologiques que le XXe siècle a développés. Malgré ça, la science est attaquée. Et paradoxalement, elle est attaquée sur les réseaux sociaux et sur l'Internet, qui est un des triomphes de la science. L'Internet, c'est un réseau mondial dans lequel circule de la lumière laser, qui transporte une quantité gigantesque d'informations à la vitesse de la lumière et qui relie entre eux des ordinateurs qui font des calculs fantastiques à partir de phénomènes que la physique quantique a mis au point. Et tout cet arsenal sert à aussi bien à meilleur des choses, mais également à relier entre eux des gens qui échangent des théories absurdes et qui se renforcent les uns les autres dans ces absurdités. Le communautarisme qui, avant l'Internet, était limité spatialement est devenu maintenant un communautarisme mondial qui réunit entre eux les gens qui partagent les mêmes idées sur Facebook ou ailleurs. Et ça, c'est un problème qui dépasse la science, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça.
Qu'en pensez-vous, Étienne Klein ? J'imagine que vous avez envie de réagir à ce
Il y a beaucoup de choses qui sont dites là.
Oui, paradoxal bon, de Serge Haroche.
D'abord, il y a toujours une forme de contradiction. Par exemple, quand la 3G était utilisée et qu'on annonçait la 4G, les gens utilisaient la 3G pour alerter sur les dangers de la 4G. Maintenant qu'on a la 4G, on alerte sur les dangers de la 5G. Donc on a toujours des attitudes qui sont en quelque sorte incohérentes. Maintenant, Serge Haroche fait appel à cette idée que les idées viennent de l'observation. Moi, je nuancerais parce que la physique moderne avec Galilée, elle naît de l'idée que les lois physiques peuvent contredire l'observation. La première loi physique mathématisée par Galilée, c'est celle de la chute des corps. On voit que les corps tombent à des vitesses différentes selon leur masse. Et Galilée par une expérience de pensée qui est donc quelque chose d'intellectuel et non pas le résultat d'une observation, fait le pari que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Mais comme à l'époque, on ne sait pas faire le vide, on ne sait même pas s'il existe, il énonce une loi qui contredit l'observation. Et c'est bien après qu'on a pu vérifier qu'en effet...
Donc ce sont des allers-retours entre des expériences de pensée, de l'observation, de la théorie.
Voilà,
des allers-retours perpétuels.
Et la théorie permet de prédire l'existence de phénomènes ou de même d'entités physiques qu'on met beaucoup de temps à détecter. Par exemple, Einstein prédit les ondes gravitationnelles en 1917. On les a détectées pour la première fois un siècle plus tard. Et on pourrait dire la même chose du boson de Higgs qui a été prédit en 1964 et détecté en 2012. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la théorie qui permet de faire parler le réel au-delà de ce qu'il nous montre. Et c'est ça qui donne à la physique, pour parler seulement de cette discipline, une certaine force qui à mon avis, la soustrait d'une forme de relativisme comme celui qui a été défini tout à l'heure. Moi, je dirais que le relativisme, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le mauvais relativisme, c'est de prendre acte du fait que les grandes idées de la science naissent dans des contextes particuliers, culturels particuliers, à un certain moment de l'histoire. Par exemple, Einstein reconnaît lui-même qu'il a eu les bonnes idées pour la relativité restreinte en 1905, lorsqu'il était à Berne, au bureau des brevets, et les brevets électromagnétiques dont il avait la charge, il devait les examiner, l'ont mis sur la bonne voie. Il a compris les problèmes de l'époque à propos de l'interprétation de l'électromagnétisme. Donc, le contexte a joué. Et si on oublie le contexte, on a l'impression d'un penseur solitaire qui a des idées géniales toute seule.
Et c'est pas comme ça
alors que le milieu social, intellectuel, culturel, économique dans lequel il vivait a joué un rôle dans la genèse de ses idées, et il le dit lui-même. Et donc étudier ce contexte et l'influence de ce contexte, c'est précieux. Maintenant dire... Et c'est là qu'est le mauvais relativisme. Que la valeur de vérité de la théorie d'Einstein continue d'être dépendante, tributaire de ce contexte, c'est à mon avis du mauvais relativisme, parce que l'efficacité de la théorie d'Einstein de l'espace-temps s'est complètement émancipée du contexte de son apparition. Et donc la relativité n'est plus rivée à Berne, 1905, Einstein avec sa pipe au bureau des brevets. Et je pense que c'est ça qu'il faut essayer d'expliquer. Les idées naissent toujours dans un certain contexte. Elles sont pas hors sol. C'est pas un génie d'une certaine époque qui parle à un autre génie plus tard. Il y a toujours un contexte. Mais la démarche de test de la théorie qui est ainsi née permet de s'émanciper du contexte et atteindre une valeur qu'on pourrait qualifier, même si c'est un peu pompeux, d'universel. Les Chinois utilisent les mêmes équations de la physique que les Français, les Africains du Sud
Mais alors
les Brésiliens.
Comment expliquez-vous ce dont parlait aussi Serge Haroche ? C'est-à-dire ce sort de paradoxe, la science, on est entouré de science, on vit grâce à la technologie qui est issue de ces grandes découvertes, de cette recherche scientifique, et en même temps, on n'a jamais eu aussi peu confiance en la science. On se sert effectivement du web, nos réseaux sociaux, de tout ce qu'on ne comprend pas, hein, on ne comprend pas comment ça marche. On s'en sert, mais on s'en sert pour divulguer des informations qui n'en sont pas, du faux, du vrai, on ne sait plus qui croire. Comment expliquez-vous ces deux tendances parallèles ?
Écoutez, moi je pense que... Alors, Einstein disait, il avait une conférence en 1939 sur la responsabilité des scientifiques, et il disait, il n'y a pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. Donc, la science vous permet de comprendre la réalité, elle ne vous dit pas ce que vous devez faire. Mmh. Elle vous indique comment faire des OGM, comment faire des réacteurs nucléaires, même des bombes atomiques. Elle ne dit pas si vous devez les faire. Et je pense que, sur les applications de la science, il faudrait qu'il y ait des discussions. Dans une démocratie, on devrait pouvoir discuter du type de compagnonnage que nous allons faire avec la technologie.
Est-ce qu'on veut de ça ou pas ? Est-ce qu'on veut de ce que la science permet, finalement ?
Est-ce qu'on veut Internet ? Est-ce qu'on veut la 5G ? Est-ce qu'on veut de l'intelligence artificielle, etc.
Ça se discute.
On a beaucoup de mal à discuter de ces choses.
Tout le monde peut en parler de
ça. Tout le monde est concerné, en tout cas. Donc tout le monde devrait en parler. Mais vous voyez qui ? Moi, je suis vieux, donc je peux parler de temps ancien. Et dans les années 70, je me souviens qu'une des critiques qu'on adressait à la science, c'était qu'elle collaborait avec les militaires. Mm-hmm. Notamment à l'occasion de la guerre du Vietnam, les prix Nobel de physique collaboraient au sein du comité Jason aux États-Unis pour, en gros, perfectionner l'art de tuer. Et c'est ça qu'on reprochait à la science. Vous avez remarqué que cette critique a complètement disparu. Mm-hmm. Et on l'a remplacée par une critique du discours des scientifiques. Or, si... la technologie est si efficace, si Internet marche, si les téléphones portables marchent, c'est précisément parce que les physiciens ont compris deux ou trois bricoles sur les interactions entre la lumière et la matière. Et donc c'est parce que leur science leur permet d'être efficace qu'il faut s'intéresser aux applications. Et comme on ne distingue pas les deux, on va relativiser leur discours en guise de critique des applications.
Donc vous dites qu'il faut distinguer, Étienne Klein, science et recherche, distinguer...
Science et application.
Science et application. Oui. Et tant qu'on est dans cette confusion généralisée, c'est ceux qui parlent le plus fort et le mieux, et le plus rapidement, et le plus simplement qui aura raison, c'est ça.
En fait, il y a deux temporalités dans la question. Première chose, qu'est-ce qu'on sait ? Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait ? Et vous voyez que ce n'est pas du tout le même registre de questions. Qu'est-ce qu'on sait ? Il faut interroger les scientifiques sur leur savoir, aussi sur leur ignorance.
C'est ça, aussi accepter l'incertitude.
Ce qu'ils savent ne pas savoir. Et puis ensuite, à partir de ce constat, de décider si on fait telle ou telle chose et si on s'embarque dans telle ou telle voie.
Et ça, c'est une autre question autour de la question « La science dit-elle le vrai ?» Pour nous faire retrouver justement ce goût du vrai, vous avez choisi, Étienne Klein, d'écouter une vraie voix originale. La jeune chanteuse norvégienne Sigrid, dans sa superbe reprise de Leonard Cohen, « Everybody Knows ».
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many you just had to meet without your clothes.
Everybody knows.
Everybody knows sur RFI, Leonard Cohen, repris par Sigrid, la nouvelle voix magnifique norvégienne que vous nous faites découvrir. Étienne Klein, merci pour ce choix.
Mais c'est incroyable parce que quand vous écoutez cette chanson dite, chantée par Leonard Cohen, c'est les mêmes paroles, hein, ou bien dite par cette jeune femme, on n'a pas l'impression que c'est le même message. C'est le même, mais quand on dit que la chanson raconte que la déchéance est proche, elle arrive toujours plus vite que prévu. Mais
Cohen,
selon
c'est
que c'est un vieil homme qui le dit ou une jeune femme, évidemment, c'est pas la même chose.
Everybody knows. Autour de la question, la science dit-elle le vrai? Vous êtes donc, je le rappelle, physicien et philosophe des sciences et vous venez de publier, Étienne Klein, dans la collection Tract chez Gallimard, un essai percutant et ô combien d'actualité, Le goût du vrai, dont nous avons, chers amis auditrices et auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Avis aux amateurs en ces temps de grande confusion, où il devient de plus en plus difficile de faire le tri entre le vrai et le faux, et où certains lobbyistes font carrément de la désinformation scientifique. Et oui, ce sont les nouveaux gardiens de la raison et de la science, donc des lobbyistes d'un nouveau genre qui utilisent Internet, les blogs, YouTube pour faire passer leur bonne science, entre guillemets, celle qui défend les intérêts industriels en affirmant par exemple que le glyphosate utilisé en agriculture ou que le tabac ne sont pas des substances si dangereuses que ça. Sylvain Laurence est sociologue, maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a coécrit avec les journalistes Stéphane Foucard et Stéphane Aurel Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique à paraître aujourd'hui même aux éditions de la Découverte. Sylvain Laurence en explique au micro de notre reporter Charlie Dupiaux.
En fait, ce n'est pas tant la vérité scientifique en tant que telle qui intéresse les lobbyistes, c'est l'idée qu'il pourrait y avoir des énoncés scientifiques qui viendraient potentiellement perturber la mise sur le marché des produits. Typiquement, je fais des biberons avec du bisphénol A dans le biberon. Du coup, c'est embêtant s'il commence à y avoir des études scientifiques qui expliquent que cette substance est potentiellement nocive pour les nourrissons. Et le lobbying, qui a beaucoup évolué depuis, on va dire, les années 90, avec des lobbyistes qui ont de plus en plus un profil avec un background en sciences dures, un doctorat en toxicologie, etc., parce qu'il va falloir prouver aux régulateurs que les substances en question ne sont pas si nuisibles que ça, ou si toxiques que ça, ou que s'il y a une toxicité, elle n'est peut-être pas pour tout le monde, et que la régulation doit être quand même modérée, etc. Donc, je dirais que la vérité scientifique, elle est de plus en plus discutée ou travaillée par les lobbyistes, pas parce qu'ils veulent contribuer à apporter leur pierre à une œuvre de vérité scientifique, mais parce qu'il y a certaines vérités scientifiques qui peuvent poser problème quand on fabrique des produits industriels, et que le plus court chemin pour convaincre un régulateur, ben, c'est souvent de parler directement le langage scientifique, en fait.
C'est vraiment la question de la vérité scientifique et de comment elle est obtenue, cette vérité. Est-ce qu'elle est obtenue par des chercheurs académiques ou par des experts ?
Oui, alors après, ce qui complique encore plus les choses, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans le monde académique, aussi une incitation aux chercheurs à devenir aussi entrepreneurs. Ben, on va encourager les chercheurs à avoir breveté certaines de découvertes avec des entreprises, voire monter leur propre entreprise. Et donc, la figure finalement du scientifique pur, qui ne ferait que de la science fondamentale, etc., aujourd'hui, elle est de plus en plus évanescente. Donc pour moi, il y a vraiment deux espaces avec leur propre logique. La logique scientifique, c'est celle où on a établi des faits. Après, tout le travail et tout le chemin pour que ces faits arrivent à percoler dans le débat public et touchent le décideur politique ou administratif, ça, c'est une toute autre bataille, une toute autre logique. Et entre les deux, ben, c'est là où travaillent les lobbyistes sur lesquels moi j'enquête ou d'autres enquêtent. C'est-à-dire cette espèce d'entre-deux dans lequel on sait qu'il y a des choses qui sont vraies scientifiquement. Et en même temps, un lobbyiste qui aura un background en sciences dures et qui endosse la casquette d'expert dans l'espace public est tout à fait capable de brouiller le débat ou de compliquer les choses en disant que c'est plus complexe que ce qu'on croit, etc. Et donc c'est là qu'il peut y avoir potentiellement du conflit d'intérêts. C'est-à-dire que vous tirez une rémunération de quelqu'un qui, par exemple, met sur le marché du glyphosate, et dans le même temps, vous êtes l'expert qu'on convoque pour nous dire est-ce que cette substance est dangereuse ou pas. Voilà, la question de l'amiante, pour moi, je trouve que c'est un bon exemple. On établit très vite le fait que c'est un problématique comme substance, et on va avoir des années avant qu'on ait des décisions publiques fermes qui permettent de retirer la substance dans le secteur du bâtiment. Et ça, c'est trop tard par rapport à ce qu'on avait établi scientifiquement très 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 tôt.
Sylvain Laurès, sociologue, co-auteur des Gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique qui paraît aujourd'hui même aux éditions de la Découverte. Étienne Klein, comment faire face à cette désinformation?
Alors il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Alors, la question qui est posée, c'est pas celle de la vérité scientifique, c'est celle de la triche. Enfin, la désinformation, c'est une espèce de jeu avec la vérité qui consiste à...
C'est de la triche où on met en avant certaines choses et pas d'autres, mais pour des intérêts.
Oui, mais surtout on essaie de... En tout cas, ça a été fait par l'industrie du tabac et d'autres, de dire la science c'est le doute. comme l'ont dit par exemple les climato-sceptiques, ce qui est un slogan qui m'horripile, parce que justement, la science, ça n'est pas le doute.
Ce qui est le doute, les chercheurs doivent douter.
On dit, finalement, c'est un résultat, mais il est partiel, incomplet, il y a peut-être d'autres causes qu'on n'a pas étudiées, peut-être que c'est un phénomène multicausal. Et donc, paradoxalement, le fait de dire la science, c'est le doute, incite à faire davantage de recherches, et donc à gagner du temps, puisqu'on procrastine sur les décisions qui devraient être prises si on prenait au sérieux les résultats proposés par les scientifiques, entre guillemets, honnêtes.
Mais les scientifiques honnêtes, ce sont ceux qui doutent eux-mêmes dans leurs recherches, mais qui ne mettent pas en avant ce doute, c'est ça,
par exemple, si vous prenez les effets du tabac sur le cancer, assez rapidement, on n'a plus douté. On a vu qu'il y avait non seulement une corrélation, mais une causalité. Mais plutôt que d'admettre ce résultat comme une donnée scientifique, on a préféré dire « Ah, il y a peut-être des facteurs génétiques qu'on a mal identifiés, qui jouent un rôle dans le fait que les fumeurs... »
Ça embrouille, quoi. Voilà, ça enfume, justement.
D'ailleurs, ça peut même produire parfois de la bonne science. Mais le plus souvent, c'est fait pour embrouiller le sujet et faire que la cause qui a été identifiée soit relativisée par rapport à d'autres causes possibles. Et pour le citoyen lambda comme moi, on voit que la confusion empêche de savoir, puisque dans les mêmes canaux de communication vont circuler des résultats, des connaissances scientifiques, des opinions, des commentaires, des fake news, des manipulations. Et le fait que toutes ces choses circulent dans les mêmes canaux fait que leurs statuts respectifs, qui sont pourtant très différents, s'amalgament, se contaminent. Quand on a affaire à une connaissance, on va se demander si c'est pas une croyance cachée. Si on a une croyance, on se demande si elle ne porte pas une certaine connaissance qu'on a tort d'ignorer, etc. Et donc, ça crée une espèce d'amalgame dont j'espère que l'apprentissage progressif des réseaux sociaux et d'Internet nous permettra de sortir progressivement. J'espère qu'on va acquérir une certaine maturité qui nous permettra d'aller voir les sources et de pouvoir distinguer le vrai du faux dans ce qui nous est transmis.
Et de faire le tri, mais c'est pas simple aujourd'hui. On a l'impression que ça prend du temps. On a l'impression que c'est de moins en moins simple d'être un homme qui aime le savoir et qui a simplement le goût du vrai. Ou une femme, c'est générique que je disais ça. Mais c'est de plus en plus complexe. Le monde est de plus en plus complexe.
Oui, mais on a besoin de comprendre sur quelques exemples comment fonctionne la démarche scientifique. Et je pense que c'est ça qu'on n'enseigne pas assez. Par exemple, toujours pour prendre le même exemple, la Terre est ronde. Tout le monde le sait. Mais comment est-ce qu'on l'a su dans l'histoire des idées? C'est une histoire passionnante, qu'on ne connaît pas. Et du coup, si en face de vous, quelqu'un vient défendre l'idée que la Terre est plate et vous présente des dizaines d'arguments, tous faux, mais comme ils sont nombreux, vous vous dites, mais il y en a moins un qui est bon. Et si vous ne connaissez pas, vous, comment on a su que la Terre est ronde dans l'histoire des idées, vous risquez de passer un sale quart d'heure.
D'où le fait que le philosophe des sciences que vous êtes aime bien qu'on se raconte des histoires et qu'on raconte des histoires de science et du cheminement de la science.
Il y a finalement peut-être que ça. L'histoire pour ne pas raconter d'histoire.
Racontons l'histoire pour ne pas raconter d'histoire. Merci Étienne Klein. Vous avez, on s'en rend compte, le goût du vrai. Allez, nous on a un petit cadeau pour vous, une petite pépite musicale à vous offrir. Elle s'appelle Taï, elle est rappeuse, poète et artiste visuelle. Elle est née au Sénégal. Elle n'est autre que la sœur de l'économiste et écrivain Félouine Sarr, mais ça c'est pour les ragots. Elle a convoqué la chanteuse malienne Mamani Keita et le rappeur ghanéen Blitz, The Ambassador, sur son nouvel album qui devrait sortir prochainement. En attendant, voici un extrait sur RFI, Life is not a waiting game, morceau de circonstance qui devrait vous plaire, Étienne Klein, Taï and the Love Process.
Waiting, 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 waiting. Everybody's waiting, waiting for change, waiting, waiting to live their life. Before we get peace, how many doctrines will have to be broken in pieces before we reach a change? How long will we look our lives falling apart while the universe beyond us giving us this key to this part of us called consciousness? How come righteousness of a man mistaken and turn into weakness? When will we stop watching nature dying, live in direct on TV, and clean up the mess made in the name of progress? How many lives must be taken for God's sake before we understand?
to divine dazzlement, blood spread to...
Die and the Love Process sur RFI, album très attendu de cette artiste sénégalaise qui devrait sortir fin 2020. Vous avez mis le casque, Étienne Klein, pour bien l'écouter. Hein.
Oui, parce que le titre me fait penser à une chanson des Rolling Stones.
Ah.
Time waits for no one.
Et voilà, et là c'est Life is not a waiting game. Allez, je vous propose maintenant un petit détour par le ciel sénégalais, justement, où cette nuit aura lieu une occultation bien particulière qui intéresse tout particulièrement la NASA, qui a déjà collaboré d'ailleurs avec les astronomes et astrophysiciens sénégalais, c'était en août 2018, pour observer le passage de l'astéroïde Ultima Thule dans le cadre de la mission New Horizon, et qui cette fois-ci, la NASA, pour préparer la mise en orbite de la sonde Lucie, ce sera en 2021, a carrément chargé les astrophysiciens, les astronomes sénégalais, d'observer une occultation particulière quand un groupe d'astéroïdes va masquer une étoile. Occultation qui va se produire cette nuit dans le ciel du Sénégal. 21 télescopes de la NASA sont prêts. Les astronomes du Sénégal sont prêts eux aussi derrière leurs télescopes pour réaliser cette observation sous la direction de Maram Kéré, ingénieur astronome, président de l'Association pour la promotion de l'astronomie au Sénégal, en lien avec des astronomes français et belges. On écoute Maram Kéré, que j'ai joint par téléphone sur le terrain après deux nuits de préparation intense.
Alors nous sommes à Fatick, donc c'est à peu près 150 km de Dakar, avec donc une équipe d'une trentaine de Sénégalais, de scientifiques sénégalais, des universitaires et des personnes qui sont des membres de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie, l'ASPA, à qui donc la NASA, à travers cet institut, a confié l'organisation de cette campagne d'occultation. On va déployer donc 19 télescopes sur différents sites dans un rayon à peu près de 70 km autour de la ville. Donc nous allons observer cette occultation dans la nuit du 23 au 24 septembre. Ça dure 4 jours pendant lesquels on va avoir 3 nuits d'entraînement avec l'ensemble des équipes parce que tout le monde n'est pas aussi familier que cela avec les campagnes d'occultation, donc que les gens comprennent ce qui est attendu, des entraînements par rapport à l'utilisation du matériel, les télescopes, les caméras d'acquisition, les ordinateurs, et à partir de là qu'on puisse, dans la nuit du 23 au 24, c'est-à-dire la nuit de l'occultation, que toutes les équipes qui vont piloter ces télescopes soient au point.
Du coup, cette occultation, il ne faut évidemment pas la louper, et puis ensuite il faut noter et renvoyer toutes ces informations-là à la NASA, c'est ça?
Exactement ça. Donc, contrairement à 2018, où toute l'équipe de la NASA pour cette campagne d'occultation de 2018 s'était déplacée sur place, cette année avec le contexte de la pandémie, ce n'était pas évident. Les télescopes donc, ont été envoyés, c'est quand même 19 systèmes qui sont là, et avec les caméras d'acquisition. Donc nous allons prendre 10 minutes de cette phase d'occultation qui dure une fraction de seconde. Nous allons avoir des enregistrements de 10 minutes sur chaque station. Tout sera sauvegardé et renvoyé au niveau du Southwest Research Institute qui fera le traitement des données. Donc la première chose, je pense, que techniquement tout soit au point ici au niveau du Sénégal pour faire l'acquisition. Bien entendu, la météo est un facteur à prendre en compte. Mais une fois qu'on a ces données, tous les systèmes sont packagés et renvoyés au niveau des États-Unis pour leur exploitation. Et c'est à partir de ce moment qu'on pourra savoir si au moment précis donc, de l'occultation, on a pu avoir le passage de l'astéroïde ou pas. Bien entendu, pour répondre à votre question, c'est un moment qui se passe de façon précise à 3h02 de la nuit, heure sénégalaise, donc à 3h02 de la nuit du 23 au 24. On ne peut pas le faire avant, on ne peut pas le faire après, donc c'est un moment à ne pas rater.
C'est clair et c'est un sacré défi qui montre aussi une vraie collaboration aujourd'hui, donc entre la NASA, Maram Kéré, les astronomes du Sénégal et les Français et les Belges qui vous soutiennent aussi.
Et parfaitement, parce que la première activité que nous avons eu à tenir en 2018 a connu la participation d'une importante équipe américaine, donc à peu près 50 personnes. Cette année, la mission est confiée intégralement à l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. C'est déjà une marque de confiance par rapport aux ressources humaines qui sont ici et je pense que c'est très important. Mais la collaboration continue dans un autre niveau, c'est-à-dire que les Français qui avaient participé à la première campagne ont accepté de venir participer à cette nouvelle mission. Donc ce qu'on avait réussi à tisser comme collaboration autour de la première campagne, ça continue et de belle manière parce qu'on a franchi un nouveau cap dans la confiance mutuel que Marc Buis, le chef de cette mission d'occultation au niveau des États-Unis, puisse nous faire confiance intégralement, envoyer tous les télescopes, tout le système. Je pense que c'est un grand pas qui vient d'être franchi dans la collaboration scientifique et nous espérons qu'on puisse continuer à accompagner ces campagnes d'occultation à partir du Sénégal avec les scientifiques sénégalais directement.
C'est le meilleur qu'on puisse souhaiter à Maram Kéré, aux astronomes sénégalais. On va vous en reparler très vite. Hein. Chers amis auditeurs, le 23 octobre prochain, Maram Kéré sera notre invité en duplex depuis Dakar avec Sylvain Boulet qui l'accompagne. Et ils nous initieront à l'astronomie africaine, nouvelle déclinaison sur le web du journal L'Astronomie. Ça vous inspire quoi, Étienne?
Je trouve ce témoignage magnifique. Hein. C'est un des rares bons effets de cette pandémie. C'est-à-dire que les astronomes américains ne peuvent plus se déplacer. Et donc, on fait appel aux gens qui sont là, qui vont augmenter leurs compétences, vivre une aventure incroyable. Et quand la pandémie aura cessé, eh bien, il y aura là des ressources qui autrefois étaient très peu utilisées, qui vont l'être beaucoup plus parce qu'on aura eu confiance dans leur capacité, dans leurs compétences. Et ça montre bien que la science est quand même une belle collaboration qui rapproche les cultures. À un moment, on a tendance à parfois les opposer.
Et qui rappelle aussi que finalement, face à cette pandémie terrible qui nous fait nous poser énormément de questions, qui touche pas tout le monde de la même manière sur le globe, a aussi, c'est pas quelque chose de positif, mais c'est quoi? C'est un accélérateur, un révélateur de ce qui se passe, des questions qu'on doit se poser, des questions qu'on doit se poser.
Bon, vous parlez d'accélération, moi je pense plutôt que pendant le confinement en France, et même pendant le déconfinement, on a moins l'impression que le monde va plus vite que nous. On a l'impression d'être synchrone avec le monde.
Mmh. On a pu appuyer sur pause un peu.
Parce que d'habitude, on est toujours en retard par rapport à l'actualité. On a toujours l'impression d'être pris dans un rythme qui n'est pas le bon. Et là, je trouve que le monde ne va plus vite que nous. La pandémie a universalisé la temporalité de la planète. Et je trouve que ça, même si ça crée beaucoup d'angoisse par ailleurs, beaucoup d'incertitudes, il y a un petit côté apaisant en pensant que tout le monde, en ce moment, va au même rythme.
Et j'ai envie de citer pour terminer Edgar Morin, c'est dans le journal du CNRS qui disait, mais finalement ce que ça nous apprend, est-ce que ça doit nous apprendre, c'est l'incertitude. On l'a oublié au Nord, hein, l'incertitude. J'ai l'impression qu'au Sud, on est plus conscient.
L'incertitude, ce qui ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, qu'il faille douter de tout.
Ah, on est bien d'accord, Étienne Klein. Merci de nous le rappeler. Donc, je rappelle moi, le goût du vrai tract chez Gallimard, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, donc signé Étienne Klein. Et puis, effectivement, vous le montrer, parce que je voulais amener, parce que j'ai trouvé une BD absolument extraordinaire dont j'ai envie de parler. Ça s'appelle Bonjour la science, enfin Bonjour l'ambiance. Hein. C'est un projet global pour la vérité. Enfin, c'est extraordinaire. Donc dessus, il y a un dossier spécial, enfin la vérité sur les chips, l'océan, juste un trou avec de l'eau dedans. Un projet global pour la vérité. Véritable, je cite toujours hein, cette BD extraordinaire, signée Placide Babylon aux éditions Delcourt Collection Patakès. Véritable pilier de la raison dans le tourbillon frénétique d'une époque hallucinée. Bonjour la science a pour ambition de devenir la référence ultime en matière de vérité absolue. Oh là là, ça c'est bien ça. Découvrir en outre que derrière leur air impénétrable et leurs cheveux mal peignés, les scientifiques sont des femmes et des hommes presque comme les autres. Vous êtes un homme presque comme les autres, Étienne Klein?
J'ai pas de peigne en tout cas.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté. Toute notre fine équipe, Victor Hull et Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Achowski au micro, vous donne rendez-vous lundi prochain, chers amis auditeurs et auditrices, autour de l'astrophysicienne Françoise Combes, nouvelle médaille d'or du CNRS 2020. Merci de votre fidélité et de votre interactivité. Vos questions sont toujours pertinentes, on les lit. Elles m'inspirent et elles nous inspirent. Surtout, restez curieux. Gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.